Ce soir, nous ouvrons nos Bibles avec vous dans Actes 8, versets 26 à 39, que nous lisons pour vous. Actes chapitre 8, versets 28, versets 26 à 39. Il est écrit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Voilà le texte de ce soir, sinon le texte dont nous commençons à étudier ce soir. Et le thème que nous donnons à cette étude, c'est les éléments indispensables au salut des pécheurs. Nous savons que chacun a son opinion sur le salut, chacun a son avis sur le salut. Et comme je le dis toujours, la seule chose, la seule question à laquelle tous peuvent répondre, soit négativement, soit positivement, la seule chose que tous connaissent, c'est Dieu. Malheureusement, ce n'est qu'une impression que les hommes ont de connaître Dieu, de connaître les choses de Dieu, alors qu'ils ne connaissent absolument rien de lui, et rien même d'eux-mêmes d'ailleurs, rien de son Fils Jésus-Christ. Et ce texte que nous venons de lire nous montre que le salut des pécheurs vient de Dieu et de Dieu seul, par son Fils Jésus-Christ. Le salut est planifié par Dieu lui-même et rien ne vient de l'initiative des hommes. Absolument rien. Et c'est ce que toutes les Écritures proclament. C'est ce que toutes les Écritures enseignent de la Genèse en Apocalypse. C'est Dieu qui est l'auteur du salut. C'est Dieu qui est l'exécuteur de son salut. C'est Dieu qui est celui qui préserve le salut qu'il a donné aux hommes qui ne peuvent pas du tout le préserver, qui ne peuvent pas du tout y persévérer. Et c'est ce que ce texte nous montre. Nous, dans Jean chapitre 1, pour confirmer ce que nous disons, que le salut vient de Dieu et de Dieu seul. Voici ce que Jean nous dit. Jean, dans, à partir du verset 11, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, il est écrit, « Elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle, la parole, Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus-Christ, elle est venue vers les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue d'abord, premièrement, vers le peuple juif qui l'attendait, qui attendait le Messie, qui attendait loin de Dieu. Ça, c'est les siens. Lui-même, descendant de la famille de David, et les siens, les hommes, tout court, il a pris la forme d'un homme, il est devenu comme l'un de nous, et il nous a ressemblé en toutes choses, sauf le péché. Il ne connaît pas de péché. Il est venu de vers les siens ne l'ont point reçu, que ce soit les juifs, que ce soit les autres, personne ne l'a reçu. Mais regardez ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ, qui ont cru en son nom, Christ a donné le pouvoir de croire en lui. C'est Christ qui a donné le pouvoir de croire en lui. Et c'est Christ qui a fait de tous ceux qui croient en lui les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. C'est pas parce que papa est pasteur que tous les enfants seront pasteurs, parce que papa est chrétien, tous les enfants naissent chrétiens. Ce n'est pas de la volonté de la chair, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui, par ses œuvres, par ses efforts, par ses performances, devient enfant de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas par la décision de l'homme, comme on entend, le libre arbitre de l'homme, le libre choix de l'homme qui choisit Christ, mais c'est de la volonté de Dieu. Allez, mes amis, le salut vient de Dieu et rien, absolument rien, ne vient des hommes. Revenons dans notre texte. Ainsi, la première des choses que nous voyons dans notre texte, le premier élément indispensable, c'est un prédicateur de l'Évangile envoyé par Dieu lui-même. C'est ce que nous voyons dans le verset 26. Il est écrit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Oui, pour le salut des pécheurs, il faut premièrement un prédicateur de l'Évangile. Et comme nous voyons ici, un prédicateur choisi par Dieu lui-même. Vous voyez, l'ange s'est adressé à Philippe de manière personnelle en lui disant, « Philippe, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » L'ange s'est adressé à Philippe personnellement. C'est des hommes, les prédicateurs de l'évangile, les vrais, sont des hommes choisis par Dieu lui-même. Choisis par Dieu lui-même. Voyez, chers amis, le véritable prédicateur de l'évangile, ou bien le véritable prédicateur de l'évangile, n'est pas nécessairement celui-là qui sort d'une faculté théologique et avec de grands diplômes, et que l'on nomme selon son diplôme. On ne dit pas un monsieur tel, mais on dit docteur tel. Voilà comment on s'appelle. Et ce n'est pas donc nécessairement ces hommes qui sortent des facultés bibliques avec leurs grands diplômes et établis par les hommes. Ils sont établis par les hommes et non par Dieu lui-même. Mais le véritable prédicateur, comme nous le voyons ici à travers Philippe, il est choisi par Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même qui l'établit et son diplôme, c'est le Seigneur Jésus-Christ révélé à son cœur par le Saint-Esprit. Voilà le diplôme des véritables prédicateurs de l'Évangile. C'est le Seigneur Jésus-Christ révélé à son cœur par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Chers amis, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas qui est Christ dans toute sa gloire, dans sa personne divine et dans sa personne humaine parfaite et son œuvre accomplie sur la croix qui seule satisfait à la justice de Dieu par son obéissance et par son sacrifice. Nous ne pouvons pas être un prédicateur envoyé de Dieu. Parce que nous allons le voir ici. C'est ça le message du prédicateur. Le message du prédicateur, c'est le Christ crucifié, révélé au cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les diplômes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons-le dans Galates chapitre 1. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de lui-même dans le livre de Galates. Et il nous montre le diplôme que Dieu lui a donné afin qu'il aille annoncer l'évangile. Il dit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 13, il revient dans son passé. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à l'outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais voici la différence. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà le diplôme que Dieu avait donné à l'apôtre Paul. Lorsqu'il plut à Dieu qu'il avait mis à part de lui révéler son Fils et qu'il avait appelé par sa grâce, Paul n'est pas parti consulter les hommes pour leur demander comment faut-il prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qu'il faut que j'annonce dans mon message? Il n'est pas parti non plus même consulter ceux qui étaient des apôtres avant lui. Il n'est pas parti dans une école biblique, mais il est parti directement pour proclamer le Christ crucifié. Et c'est lui qui dit aux Corinthiens, il dit, je n'ai eu parmi vous aucune autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez, mes amis, c'est ça le diplôme du véritable, en fait, du prédicateur envoyé par Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre accomplie sur la croix, qui, par son obéissance et sa vie parfaite, son sacrifice, a payé le prix du péché, a payé la dette du péché de son peuple, et il a réconcilié son peuple avec Dieu. Il a justifié son peuple. Il a donné à son peuple un plein et parfait pardon des péchés. Il a donné à son peuple la vie éternelle. Voilà les bonnes nouvelles. Voilà les bonnes nouvelles. Et croyez-moi, chers amis, si ce n'est pas ces bonnes nouvelles qui sont en Jésus-Christ qui vous réjouissent, si ce n'est pas ces bonnes nouvelles qui sont en Jésus-Christ qui vous épanouissent, alors vous êtes l'homme le plus malheureux de ce monde. Et il ajoute encore qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oui, les véritables prédicateurs de l'Évangile. Ils annoncent la paix. La paix avec Dieu qui découle de la croix de Christ. Comme nous pouvons le lire dans Colossiens chapitre 2. Non, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Il est écrit, verset 19, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. » Voyez, comment est-ce que Dieu est un Dieu de grâce? Comment est-ce que Dieu est un Dieu de miséricorde? Comment est-ce que Dieu est un Dieu de compassion? Et qui ne garde pas sa colère à toujours, mais qui est toujours prêt à faire miséricorde. Il dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Oui, c'est à travers cette œuvre efficace et parfaite, accomplie sur la croix par son sacrifice, par son sang qui a coulé, que le sang qui a purifié, qui a lavé le peuple de Dieu de tout péché, que Dieu s'est réconcilié avec son peuple. Pourquoi? Parce que le sang de Christ a payé la dette du péché de son peuple. Parce que la dette de Christ, le sang de Christ a payé la rançon. Et si la rançon est payée, il n'y a plus de colère. Il y a réconciliation, il y a la paix. Oh, mes amis, beaucoup pensent qu'ils sont en paix avec Dieu. Mais tant que le Seigneur Jésus-Christ n'aura pas porté votre péché, tant que le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas mort pour vos péchés, vous n'avez pas la paix avec Dieu. Elle découle de la croix de Christ. De la croix de Christ. Et c'est des hommes qui sont instruits par Dieu lui-même et non pas par les hommes. Disons-le dans Jérémie chapitre 23. Jérémie 23 et le verset 21 à 22, il dit ceci. Je n'ai parlant des faux prophètes. et des faux prédicateurs. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire venir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Voilà, chers amis, c'est Dieu lui-même qui instruit ceux qu'il choisit pour envoyer. Et ceux qu'il choisit pour envoyer, il leur donne un, il leur confie un message. Un message de la repentance et de la foi, de la repentance envers Dieu et de la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé à annoncer la parole, ses premières paroles prononcées dans la proclamation de l'Évangile étaient « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et l'Éternel dit ici, dans Jérémie, que si les prédicateurs qui prêche là-dehors aujourd'hui, avait assisté à son conseil, si c'est lui qui les avait instruits, voilà ce que ça veut dire, si c'est lui qui les avait instruits, si c'est lui qui leur avait révélé son Fils Jésus-Christ, si c'est lui qui leur avait confié le message de l'Évangile, il proclamerait l'Évangile à son peuple et il ramènerait les cœurs de son peuple à lui dans la repentance et dans la foi en Jésus-Christ. Une autre chose que nous voyons concernant ces prédicateurs envoyés par Dieu, ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'il attend, où il va, mais il se lève et il exécute. L'ange dit à Philippe, lève-toi et va sur le chemin. Revenons dans notre texte. L'ange du Seigneur dit à Philippe, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Voyez, Philippe n'a posé aucune question. Il ne voulait pas savoir qu'est-ce qu'il attend là-bas, de quoi son voyage vers le côté du midi, sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, sera fait. Mais il se lève simplement et il s'en va. Ils sont obéissants, soumis à la voix de Christ, soumis à la volonté de Christ. C'est ça le prédicateur que Christ envoie. Ce n'est pas des hommes qui, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, le contraire que nous voyons aujourd'hui au milieu de nous. Des hommes qui veulent d'abord savoir si l'Église qui doit les recevoir a suffisamment de moyens pour les entretenir, pour prendre soin d'eux. Et oubliant la parole de Dieu, oubliant la parole de leur Seigneur qui sonne encore à grands mots dans Matthieu chapitre 10, où il dit, à partir du verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et mes amis, le véritable prédicateur, celui qui est envoyé par Dieu, comme nous le voyons ici, dans Actes chapitre 8, c'est quelqu'un qui non seulement est choisi par Dieu, c'est quelqu'un qui est instruit par Dieu lui-même, et son diplôme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, et c'est quelqu'un qui est soumis totalement et entièrement à la volonté de Christ, son maître. Et une dernière chose que nous voyons, que nous pouvons ajouter, il est uniquement préoccupé par la gloire de Christ et le salut de ses élus. C'est tout ce qui préoccupait Philippe. Lorsqu'il partait vers le midi, c'est la gloire de Christ qui préoccupait son esprit. Et c'est le salut de ceux vers qui Christ l'envoyait par le Saint-Esprit qui le préoccupait. Voilà la première chose que nous voyons concernant les éléments indispensables au salut des pécheurs. Le premier élément, c'est un prédicateur de l'Évangile envoyé par Dieu lui-même. Une deuxième chose que nous voyons encore, le deuxième élément indispensable au salut des pécheurs, c'est le pécheur ou bien les pécheurs préparés par Dieu lui-même. C'est ce que nous voyons dans ce texte, versets 27 à 29. Il se leva, Philippe se leva et partit, et voici un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Voilà un homme qui était parti à Jérusalem adorer, selon la religion, selon la loi de Moïse, mais qui rentrait chez lui après ce pèlerinage, mais que Dieu avait préparé pour recevoir l'Évangile. L'Esprit, nous voyons donc que l'Esprit de Dieu a conduit Philippe vers l'eunuque préparé par le Seigneur lui-même pour recevoir non seulement Philippe, mais pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chers amis, si le Seigneur lui-même ne dispose pas les cœurs des hommes morts dans leurs péchés, si le Seigneur lui-même ne fait pas grâce aux hommes morts dans leurs péchés, ils ne sont pas prêts à recevoir les prédicateurs de l'Évangile, encore moins le Christ crucifié que ces prédicateurs leur annoncent, leur proclament. Je sais de quoi je parle. Et le plus souvent, cela arrive même par des hommes qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ferment leur cœur, qui ne sont pas prêts à recevoir le prédicateur de l'Évangile, qui ne sont pas prêts à recevoir le Christ crucifié proclamé pour le salut des pécheurs. Et la preuve, c'est quoi? C'est que ces hommes sont encore véritablement morts dans leur péché. Ils ne sont pas encore passés de la mort à la vie. Parce que celui qui est passé de la mort à la vie a toujours soif de l'Évangile. Il a toujours soif d'entendre proclamer la gloire de Christ, la gloire de sa personne, la gloire de son œuvre. Il a toujours soif d'entendre ces bonnes nouvelles, ces bénédictions qui découlent de la croix de Christ. Et si Dieu lui-même ne nous ouvre donc pas les cœurs, personne Et en fait, c'est ce qui fait véritablement la consolation et l'encouragement des véritables prédicateurs de l'Évangile. Car ils ont l'assurance que les élus de Dieu entendront la voix de Christ et viendront à Christ dans la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Parce que préparé par Dieu pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 6, ce passage que nous lisons régulièrement. Dans Jean 6, verset 35 à 37, il est écrit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Voici le témoignage de Dieu contre le cœur de l'homme. Voici le témoignage de Dieu contre le cœur de l'homme. Et à qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parlait ici? Pas aux hommes que nous appelons païens, mais aux religieux juifs qui disaient qu'ils connaissaient Dieu, qui disaient qu'ils avaient la parole de Dieu et qu'ils obéissaient à cette parole de Dieu. Malheureusement, cette parole de Dieu ne leur annonce autre chose que le Christ et Christ crucifié. Cette parole de Dieu ne leur annonce, c'est l'Ancien Testament qu'ils avaient, ne leur annonçait autre chose que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais maintenant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est devant eux. Et personne n'y croit. Mais voici la différence. Le Seigneur Jésus-Christ dit, à partir du verset 37, il dit, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Tout ce que le Père me donne. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce dont le Père a préparé les cœurs à me recevoir, tout ce dont le Père a préparé les cœurs à croire en moi, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui dont le Père a préparé le cœur et qui croit en moi. Et dans Jean 10, c'est encore la même chose. Verset 26 à 28, le Seigneur Jésus-Christ dit, mais vous ne croyez pas, parce que, d'abord, revenons un peu plus loin, verset 24, pour le contexte. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le, nous franchement, puisque c'est le Christ qu'ils attendaient. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Voyez la différence. Les brebis, c'est qui? C'est ceux-là que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde et qu'il a donné à Christ. Et c'est Dieu qui prépare encore leur cœur à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur médiateur, à le recevoir comme leur souverain sacrificateur, celui qui n'est pas venu pour offrir à Dieu le sang des boucs et des taureaux, mais qui a offert son propre sang, le sang qui ôte le péché, Comme Jean-Baptiste le disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu comme l'avocat, il est venu comme le prophète, comme le roi de ceux qu'il a rachetés sur la croix par son sang. Et nous pouvons encore lire dans Actes 16, Actes 16 et le verset 13 à 15, lorsque Paul est arrivé à Antioche. Il est dit dans Actes 16, plutôt à Philippe, c'est à Philippe à Antioche. Le verset 13 dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul dit, à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Comment est-ce que Lydie est-il venu à la foi en Jésus-Christ? Ce n'est pas par sa décision, son libre arbitre. Mais, ce n'est pas par ses efforts, mais par l'action efficace du Saint-Esprit qui a préparé son cœur, qui a ouvert son cœur afin que Lydie croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'elle soit sauvée. Oui, chers amis, la deuxième des choses que nous voyons ici, c'est que le deuxième élément indispensable au salut des pécheurs est le cœur préparé par Dieu lui-même pour recevoir son Fils Jésus-Christ et pour recevoir la vie éternelle. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir et prions que parmi vous qui nous écoutez, que le Seigneur ouvre les cœurs pour révéler son Fils Jésus-Christ et pour donner la vie éternelle. Dieu bénisse sa parole.